Chapitre 20. Pour affronter les nuits, j'ai affiné ma stratégie. Le soir, je m'interdis d'aller me coucher avant de tomber de sommeil. Je m'occupe jusqu'à épuisement complet. Je continue d'écumer mes listes de contacts. Je passe quelques coups de fil à d'anciens proches à qui je n'ai pas eu l'occasion de parler depuis des lustres. La démarche est plus qu'intéressante. Je me sens comme un explorateur qui se ferait parachuter sur une contrée affective, restée en friche pendant des siècles. L'accueil est en général chaleureux, sauf Lorraine qui a cru que je l'appelais pour lui emprunter de l'argent et qui m'a raccroché au nez. Tant pis. Lorsqu'il se fait trop tard pour déranger les gens, je passe au classement des photos. Le but n'est pas tant de mettre mes affaires en ordre, que de traquer des souvenirs oubliés dans les disques durs. Les vues défilent sur l'écran. Des voyages, des fêtes, Cassandra. Des sorties, des mariages, et toujours Cassandra. Certaines joies partagées sur des clichés de vacances suffisent à faire ressurgir des liens. De temps en temps, je dois l'admettre, j'ai quand même l'impression de régler une succession, mais pas la mienne. Je finis par m'écrouler devant l'ordi ou sur le canapé. Le sommeil est meilleur quand le corps est à bout de force, même si le cerveau continue de tourner dans l'arrière-boutique. Je me réveille quand même de plus en plus tôt. Je ne supporte pas de rester à me tourner et retourner dans le lit, alors je me lève. Je regarde par les fenêtres. Sur l'immeuble d'en face, je compte les logements où la lumière est allumée. Par déformation professionnelle, je ne peux m'empêcher d'en tirer des moyennes. Un seul appartement éclairé à 2 heures du mat, jamais le même. Le chiffre reste stable jusqu'à 4 heures, où il passe à plus ou moins 3. C'est entre 6 heures et 6h15 que ça commence à s'animer vraiment. C'est tragique d'en être réduit à s'occuper ainsi. Je n'accepte plus de perdre mon temps. Si je m'écoutais, bien avant l'aube, je rendrais déjà visite à des proches pour passer du temps avec eux. Je suis encore arrivé très tôt au bureau. Léonie ne m'a pas proposé de café et ses 2 yeux sont maquillés. Je file directement vers l'espace de travail commun. Quelques mètres avant d'y parvenir, je ralentis le pas pour adopter une démarche plus décontractée. C'est idiot, mais j'espère qu'Aurore sera là. J'avance, aux aguets, prêt à ajuster mon comportement selon ce que je vais découvrir. Elle est là, seule, exactement comme je l'escomptais. Elle me repère aussitôt et ne semble cette fois ni surprise ni épouvantée. Bonjour, Aurore.
Bonjour, Adrien.
Son hésitation avant de prononcer mon prénom traduit l'effort qu'elle fait pour l'employer. Elle s'est appliquée à l'utiliser sans me regarder. Je m'enquiers. Ça y est, vous êtes enfin à plein temps sur votre projet?
Oui, je vous en remercie.
Malgré cela, vous arrivez toujours aussi tôt?
L'habitude. Et puis, c'est plus calme.
Pourquoi ai-je la sensation qu'elle ne me dit pas tout? Donc, vous êtes satisfaite?
Parfaitement. Il n'y a pas dans sa réponse l'émotion qui devrait correspondre. Je sens un décalage entre ses mots et ce qu'elle dégage. Ça ne lui ressemble pas. Il est évident qu'elle cache quelque chose.
Pourtant, j'ai l'impression que si vous étiez debout, vous ne feriez pas votre petite danse de la joie.
Elle fuit mon regard. Je vous assure, tout va pour le mieux.
Son malaise confirme mes soupçons. Aurore, nous sommes entre adultes. Quel est le problème?
Elle semble chercher une échappatoire, mais finit par lâcher. Max est venu lui-même m'annoncer que je pouvais faire ce que je voulais parce que vous l'aviez ordonné.
À la façon dont elle le raconte, ça ne s'est pas bien passé. Faire ce que vous voulez?
Ce sont ses propres termes. Il n'avait pas l'air content du tout. Il a expliqué devant tous les collègues que je pouvais m'amuser pendant qu'ils feraient le boulot qui paie mon salaire.
Je vois. Du pur Max. Quel mufle. Je suis désolé.
Du coup, tout le monde vous regarde en se demandant à quoi vous servez et pourquoi je me suis moi-même occupé de votre cas.
Exactement.
Saloperie d'Open Space.
En quelque sorte.
Je réfléchis. Donc, au final, au lieu d'améliorer votre situation, je l'ai brillamment dégradée.
Vous ne pouviez pas savoir. Votre intention était généreuse, et je vous promets que chaque fois que j'y repense, mes pieds se remettent à danser malgré moi.
Vos pieds sont gentils. Il va quand même falloir que je vous sorte de là.
Non. Surtout ne faites rien. Ça finira par se calmer tout seul. Si vous intervenez encore, ils vont penser qu'on couche ensemble.
Elle ne se démonte pas et commente.
Je parie que c'est déjà le cas.
L'avantage, entre analystes, c'est que l'on peut évoquer froidement des hypothèses factuelles qui feraient perdre leurs moyens à la plupart des individus. Mais je crois qu'Aurore a quand même rosi. Je la questionne.
Que suggérez-vous? Je vous exfiltre d'ici et vous vous installez dans mon bureau?
Tant qu'on y est, on pourrait faire livrer un canapé-lit pour allumer un contre-feu, combattre les ragots en provoquant d'encore plus gros.
Vous avez raison, mon idée est ridicule. Et si je venais faire une mise au point ici même?
Jouer l'acte 2, là où s'est joué l'acte 1.
Aurore fait une moue dubitative.
Max s'est montré convaincant et le public a été sensible à la tirade qui me désignait comme scandaleusement privilégié.
Donc?
On ne bouge pas. Je me fais oublier. C'est la vie. Si je parviens à mener mon projet à bien et qu'il donne ce que j'espère, alors vous aurez eu raison de me faire confiance et j'aurai gagné le respect de tous sans que personne ne l'impose. En attendant, ne vous en faites pas pour moi. Je suis une grande fille, mais merci de vous en soucier.
Que vient-elle de dire?
C'est la vie?
Je pensais être encore le seul à utiliser cette expression.
Je suis perturbé qu'elle l'emploie. Je m'éloigne sans savoir quoi dire.
Excellent pour l'image d'un meneur.